Je ne sais pas si on réalise à quel point on est privilégié d'appartenir au peuple de Dieu. Qu'on est privilégié aussi d'être dans ce pays-là, un pays d'abondance, ça a été dit à plusieurs reprises, là. Parce que moi, je vois pas dans notre peuple ici là, la raison pourquoi on est béni. Pas plus qu'ailleurs. On n'est pas meilleur, là. On pourrait avoir les mêmes conséquences qu'ailleurs. Fait que c'est bon dans ce temps-là de rendre grâce à Dieu pour ça. Puis c'est bon aussi de prier pour nos gouvernements. Ils en ont vraiment besoin. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Ils ont besoin de sa direction. Et en tout cas, et nous, on a le privilège à tous les jours, à tous les instants, de rendre grâce à Dieu pour toutes sortes de bonnes choses là, qui nous arrivent. Mais aujourd'hui, en fin de semaine, c'est une fin de semaine spéciale parce que là, on pourrait dire qu'au Canada, tous les enfants de Dieu sont, on pourrait dire, d'un même cœur, d'un même esprit pour rendre grâce à Dieu, pour le remercier. C'est vraiment spécial, puis profitons-en de ce privilège-là qu'on a. On va se courber pour rendre grâce à Dieu pour sa parole aussi. Père du ciel, oui, c'est un privilège aussi que nous avons d'avoir dans nos mains ta parole, de te connaître à travers cette parole, à travers ton esprit. Et ce matin, on veut encore apprendre à te connaître davantage. Et c'est pour ça que je te demande de te tenir devant moi, qu'on puisse vraiment saisir ce que tu as voulu nous dire ce matin, qu'on puisse, à la fin, repartir d'ici plus reconnaissant envers toi, plus désireux de te connaître encore et plus désireux de t'obéir. Amen. Et probablement que il y a plusieurs personnes qui sont après rendre grâce à Dieu ailleurs. Merci pour ça. On n'est pas limité ici à rendre grâce à Dieu, mais que n'importe où ce qu'on est, on peut rendre grâce à Dieu. Mais je ne sais pas si vous êtes déjà engagé envers quelqu'un, ou probablement que oui, vous vous êtes déjà engagé envers quelqu'un, et qu'en quelque sorte, vous avez fait une alliance avec cette personne-là. Et pour ceux qui sont mariés, ben c'est évident de regarder dans votre main gauche, vous allez avoir le signe de cette alliance-là, que vous vous êtes engagé avec une autre personne. Et un peu comme Maxime et Élisabeth, là. Hein, on était là, nous autres, quelques-uns d'entre nous, on était là, on était témoins de ça. Fait qu'eux autres, ils peuvent pas nous jouer un tour, là. Ils l'ont fait devant nous autres. Tous les deux se sont engagés l'un envers l'autre, devant Dieu puis devant nous, à respecter cette alliance-là, cet engagement-là. Et c'est ça qu'une alliance, c'est en quelque sorte un contrat, un engagement entre deux parties qui se promettent de le respecter, cet engagement-là. Puis dans l'Ancien Testament, ça on l'a déjà vu aussi, lorsqu'il y avait une alliance qui se faisait soit entre deux personnes, soit en deux groupes de personnes, des fois c'était une alliance qui se faisait entre Dieu et le peuple, entre Dieu et une personne, on parlait à ce moment-là de couper une alliance. C'est-à-dire qu'on prenait un agneau, ou ça pouvait être un taureau aussi. On le coupait par le milieu, on mettait les deux parties un en face de l'autre, et ceux qui faisaient l'alliance passaient entre les deux. Et la signification de ça, c'était que ceux qui passaient entre les deux, ceux qui faisaient cette alliance-là, c'est que si je ne respecte pas ma promesse, si je ne respecte pas mon engagement, mais qu'il m'arrive la même chose qu'à cet animal-là. Je suis content que ça ne soit pas comme ça aujourd'hui, mais en tout cas. Et en même temps, c'est par ce sacrifice-là, on pourrait dire qu'il célébrait cette alliance-là, cette entente-là. Mais qui dit aussi sacrifice, ça veut dire sacrificateur. Et ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, c'est qu'au tout début, à partir de Genèse, il y a eu tout le temps des sacrifices. Et c'était les chefs de famille qui offraient les sacrifices. Que ce soit pour conclure une alliance, ça pouvait être aussi juste pour rendre grâce à Dieu, comme à l'action de grâce. Mais la plupart du temps, ces sacrifices servaient de substitut pour expier les péchés. Puis les chefs de famille ont occupé cette fonction-là de sacrificateur ou de grand prêtre, comme certaines versions le disent, jusqu'à ce que Moïse établisse les prêtres selon l'ordre d'Aaron. Et au chapitre 7 de la lettre aux Hébreux, on a déjà vu que Christ, lui, a été ordonné par Dieu comme sacrificateur, mais d'un ordre différent, d'un ordre supérieur à celui d'Aaron. Il a été ordonné sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et on voit que depuis le premier chapitre, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut présenter à ses lecteurs là, des preuves qu'ils ont un sacrificateur qui est supérieur à tout ce qu'il y a eu auparavant. À partir des premiers chapitres, on voit qu'il était supérieur aux anges, supérieur aux prophètes, supérieur à Moïse, supérieur aussi aux sacrificateurs selon l'ordre d'Aaron. Puis il nous dit aussi dans sa lettre que nous avons un grand sacrificateur qui est en même temps notre médiateur entre Dieu et nous. Et ça, ça nous encourage. À nous aussi, là, parce que la lettre a été écrite aux Hébreux, mais la lettre elle s'est adressée à nous aussi. Fait que ça nous encourage à faire confiance à notre Sauveur, tout en méditant sur les déclarations que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous mentionne dans son livre au chapitre 8, des versets 1 à 3. Fait qu'on peut tourner dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 8, et on va lire à partir du verset 1. Et on lit que le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel sacrificateur, un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de sa majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur terre, il ne serait même pas sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Il célèbre un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti, lorsqu'il allait construire le tabernacle, est-ce loin, lui fut-il dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur les meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur lui a dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec vos pères. » Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et personne n'enseignera plus son citoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leur iniquité, et que je ne leur souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Et dans sa première déclaration, on pourrait dire, l'auteur mentionne qu'ils ont un tel sacrificateur, dont il parle depuis le début, là, depuis le chapitre 1, verset 1, jusqu'au chapitre 7. C'est de ça qu'il parle. Au verset 1, il débute en leur mentionnant le point capital, le point le plus important de ce qui vient d'être dit. C'est-à-dire l'idée que nous tenons depuis le début du chapitre 1 au chapitre 7, c'est que nous avons un tel sacrificateur. Si on avait le temps, on pourrait retourner tous ces chapitres-là puis voir qu'est-ce qui veut dire par là. Mais ce sacrificateur-là est maintenant assis à la droite de Dieu, de la majesté divine dans les cieux. Et bien qu'on ait vu que plusieurs personnes pouvaient occuper cette fonction-là de sacrificateur, jusqu'à présent, là, dans cette lettre, l'auteur nous a présenté deux types de souverains sacrificateurs, que certaines versions, comme j'ai dit tantôt, appellent grand prêtre. Puis le premier type, on pourrait dire le premier modèle, c'était celui d'Aaron et de ses descendants. Puis eux autres œuvraient dans le temple de Jérusalem. C'est ce temple-là qui faisait la gloire d'Israël. Parce que le bâtiment lui-même là, était très imposant. En tout cas, selon les historiens, selon ce qu'on peut voir dans la Bible aussi, là, c'était très important, en particulier si on se fie sur la réaction des disciples que nous rapporte Matthieu 24. Quand ils ont sorti du temple avec Jésus, là, ils ont fait remarquer à Jésus, « Hey, as-tu vu comment c'est beau? » C'est là que Jésus il a dit, « Bien, ça va tout être détruit, ça. » Mais il était vraiment beau, ce temple-là, sans l'air. Et les Juifs du premier siècle étaient très impressionnés par l'architecture du temple, mais surtout par la fonction auquel cet édifice était appelé à servir. Parce qu'ils le voyaient là, comme le seul endroit, puis il avait raison aussi à ce moment-là, le seul endroit qui était désigné par Dieu, qui servait de rencontre entre Dieu et les hommes. Puis pour les Juifs, il y avait beaucoup de Juifs à ce moment-là qui étaient dispersés un peu partout dans l'Empire romain. La visite du temple constituait l'un des plus grands moments de leur vie. Parce qu'il y en a peut-être qui étaient tellement loin qu'ils venaient visiter le temple une fois dans leur vie. On pourrait un peu te comparer, c'est une comparaison boiteuse, on pourrait dire, là, mais on pourrait la comparer à ce qu'on entend dire des musulmans aujourd'hui quand ils vont voir la Mecque. Ils sont tous impressionnés, puis c'est la visite de leur vie, mais pour eux autres, c'est un peu semblable. Il faut comprendre aussi que la majorité des Juifs, là, ils étaient tellement attachés sentimentalement à tout ce que représentaient les cérémonies qui se passaient dans le temple, que même que après s'être converti, là, parce qu'il y en a certains qui se sont convertis à Jésus-Christ, il y avait encore du mal à se détacher puis à réaliser que le temple, dorénavant, il n'avait plus son utilité. Plus besoin du temple, plus besoin du sacrifice. Christ avait tout accompli. Mais eux autres, c'était difficile. Ils avaient été élevés là-dedans. C'était difficile de réaliser là, qu'il n'en avait plus besoin. Mais là, l'auteur, il veut les rassurer, là, en leur disant qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup supérieur pour eux que de ce qu'ils viennent d'abandonner. C'est pour un sanctuaire encore meilleur, le véritable sanctuaire. C'est ça qu'ils avaient besoin de comprendre. C'est que le temple de Jérusalem était seulement qu'une représentation, une image, ou on pourrait dire, même la Bible dit, un ombre du véritable sanctuaire. Il faut dire que le texte mentionne le tabernacle de Moïse. Et tous les temples qui ont succédé après le tabernacle de Moïse, on pourrait dire, le tabernacle de Moïse a été construit par Moïse dans le désert. Et ensuite, Salomon en a fait construire un, qui était supposément magnifique. Là. C'est une des sept merveilles du monde. Et ce temple-là, il a été construit sur le même modèle que le tabernacle dans le désert. Ensuite, il y a eu Zorobabel qui a construit, en a fait construire un après que le peuple était revenu de Babylone. Il était moins beau, moins luxueux, mais c'était le même modèle. Puis même ce temple-là, il a été complètement rénové par le roi Hérode. Puis tous ces temples-là, là, étaient tous faits sur le même modèle. C'était, on pourrait dire, que des copies qui suivaient le plan de disposition du premier tabernacle. Puis tous ces temples qui se sont succédés, c'était seulement des aides visuelles du modèle qui devait venir. C'est un modèle, et c'est un modèle seulement. Ce n'était pas le véritable tabernacle. Puis maintenant que le peuple de Dieu possédait un souverain sacrificateur qui servait là où se trouve le véritable sanctuaire, c'était le véritable sanctuaire que Moïse avait vu sur la montagne, puis avait, on pourrait dire, fait le sien sur ce modèle-là. Puis là, il faut prendre conscience aussi que Jésus est supérieur à tout ce qui a précédé, parce que c'est lui qui est le véritable sanctuaire. Et là, le texte nous dit ici que Jésus, notre souverain sacrificateur, il s'est assis. Et la raison pour laquelle il s'est assis, ce n'est pas parce qu'il était fatigué. Ce n'est pas parce qu'il était fatigué de toute la labeur qu'il avait faite pendant ces 30 ans-là, puis qu'il avait passé à la croix. C'est parce qu'il avait terminé son travail. Il avait terminé le mandat pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il s'était offert lui-même en sacrifice pour nos péchés. Comme un sacrifice vivant, sans tâche. Et ça, il l'a fait une fois pour toutes. Tout le contraire des sacrificateurs de l'Ancienne Alliance, qui, eux, n'avaient jamais terminé et devaient répéter constamment leur service. Ils devaient pénétrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint, du temple, qu'à des occasions spéciales. Une fois là, il était autorisé à rentrer dans le lieu très saint pour offrir un sacrifice, emmener le sang du sacrifice, puis répandre le sang sur le coffre de l'Alliance où contenait la loi. Mais notre souverain sacrificateur à nous, lui, a établi sa demeure, il s'est assis dans le lieu céleste à la droite du trône de sa majesté divine. À la droite du trône de sa majesté divine, où Dieu règne, c'est là que Dieu a établi son règne. C'est là aussi que Dieu lui a réservé une place d'honneur à sa droite. Parce que c'est là la place où il détient toute autorité suprême. Juste un peu avant de monter au ciel, il avait dit à ses disciples que tout pouvoir lui avait été donné dans les cieux sur la terre, tout pouvoir. Il lui manque aucun pouvoir. Donc, on n'a pas à craindre là On n'a pas à se demander, est-ce qu'il va être capable de faire ça? Est-ce qu'il va être capable de remplir sa promesse? Est-ce qu'il va être capable de répondre à ma prière? Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Mais Jésus, il n'est pas assis là à rien faire non plus. Parce que c'est là qu'il est assis et qu'il agit en tant qu'avocat puis médiateur. Et ça, à chaque fois que l'ennemi vient puis nous accuser devant Dieu. Il vient devant Dieu puis nous accuse d'avoir mal agi. Ou il nous accuse d'avoir manqué dans un domaine quelconque à nos responsabilités. Il faut dire que ça lui arrive d'avoir raison. Mais son but à lui, là, c'est de nous garder dans la culpabilité puis nous éloigner de Dieu. Plus qu'on se sent coupable, si vous avez remarqué, en tout cas, moins qu'on est tenté à aller devant Dieu. Hein? Parce que on a comme une petite crainte. Mais lui, il nous sert d'avocat. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il se lève devant Dieu. Et là, il monte. Il monte à son père, les marques qu'il avait dans ses mains, les marques qu'il avait dans ses pieds, puis les marques sur son côté. Puis il dit à son père, là, j'ai payé pour ça. Tout est accompli. C'était le style. J'ai payé le prix de ça. Le salaire du péché, le salaire que j'aurais dû mériter, c'est la mort. Christ est mort pour moi. Et il agit en même temps comme un serviteur du sanctuaire. Puis le sanctuaire, c'est, la plupart du temps, c'est un terme qui est désigné le lieu très saint, qui est appelé aussi le tabernacle. On pourrait dire que le tabernacle, c'est la résidence de Dieu, ça. Et c'est ce que l'auteur mentionne en ajoutant du véritable tabernacle. Pas parce que celui que Moïse avait bâti n'était pas vrai. Il était vrai parce qu'il avait été édifié sur le modèle qu'il avait vu sur la montagne. Mais celui qui a été dressé par le Seigneur lui-même et non par un homme. Le véritable tabernacle a été dressé par le Seigneur lui-même. Donc, le sanctuaire aussi est supérieur à celui de Moïse. Et comme il est écrit au verset 3, « Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. » Parce que c'était ça leur fonction, c'était ça leur raison d'être. Un grand prêtre, c'est fait pour ça. Présenter à Dieu des sacrifices. C'était, on pourrait dire, leur sacerdoce. Il est donc aussi nécessaire que celui-ci, c'est-à-dire Jésus, ait aussi quelque chose à présenter. Mais notre souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il a présenté? Il s'est présenté lui-même. On l'avait vu, ça. Dieu, il a fait un corps pour ça. Il s'est présenté lui-même à son Père. C'est son propre corps, sans défaut, sans tâche, qui a offert en sacrifice en faisant couler son propre sang. Il avait dit aussi dans Jean 10, lorsqu'il parlait aux pharisiens, au verset 17, il leur dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne n'aime l'autre, mais je la donne de moi-même. » Ce n'est pas les Romains qui ont enlevé la vie à Jésus. Ce n'est pas les Juifs qui ont enlevé la vie à Jésus. C'est chacun de nous. Mais c'est lui qui s'est enlevé pour nous. C'est lui qui l'a donné. Il dit, j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et là, comme l'a dit l'auteur au verset 4, s'il était sur terre et que le temple existait encore, Jésus ne serait même pas sacrificateur. Parce que là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, donc descendants de la tribu de Lévi. Jésus n'était pas descendant de la tribu de Lévi, lui était descendant de la tribu de Juda. Donc, il ne pouvait pas, si ça s'est recommencé, il ne pourrait pas être un sacrificateur. Selon la loi, Jésus n'était pas, ne pouvait pas remplir cette fonction. de sacrificateur. Même que durant son ministère sur la terre, il n'a jamais essayé non plus, ou il n'a jamais voulu prendre cette fonction-là, il ne s'est jamais aventuré pour entrer dans le lieu saint, dans le lieu très saint. Non, parce que Jésus ne faisait pas partie de cette classe de prêtres. Eux, les sacrificateurs de la classe d'Aaron, célébraient, eux autres, un culte qui était une image, une ombre des choses célestes. Et comme Moïse, qui fut divinement averti lorsqu'il a bâti, il a construit le tabernacle, il dit, « Aie soin, lui a-t-on dit, de tout faire d'après le modèle qui t'a été donné sur la montagne. » Moïse a construit le tabernacle d'après un modèle bien précis. Ce qui veut dire que le temple de Moïse, que le temple que Moïse a fait construire dans le désert, n'était en même temps qu'une représentation de ce qui se trouvait déjà au ciel et dont Jésus devait être le serviteur. Et même plus que ça, il était lui-même le sanctuaire. C'est ce que Jésus avait laissé entendre lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Il parlait du temple de son corps. Jésus, c'était l'habitation de Dieu. Dieu habitait en lui. Et comme aujourd'hui, Dieu habite en nous, nous habitons en lui, on est en Église, on est le temple de Dieu. Mais à ce moment-là, Jésus se trouvait être le sanctuaire de Dieu, l'habitation de Dieu sur terre. C'est lui la véritable habitation de Dieu. Mais maintenant qu'il est monté au ciel, il a obtenu un ministère d'autant plus supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente encore. Si on remarque que dans les Hébreux, tout s'en va en gradation. C'est tout le temps plus excellent, et c'est tout le temps, on aboutit tout le temps à Dieu. C'est tout le temps lui le plus excellent. Il est établi sur des meilleures promesses. Parce que la première alliance comprenait, oui, une promesse divine, parce que Dieu avait promis, mais aussi, ça comprenait des promesses humaines. Puis ces promesses qui avaient été faites par les hommes ont été rompues, elles n'ont pas été respectées. Parce que les Israélites qui pouvaient, pourtant, ils avaient dit solennellement qu'ils accompliraient cette alliance-là, qu'ils accompliraient les promesses, ne l'ont pas respectée. On voit ça dans Josué 24. Josué 24 nous raconte le défi que Josué a lancé au peuple d'Israël après avoir conquis Canaan. Là. On pourrait dire que c'était une répétition de l'alliance que Moïse avait faite avec le peuple. Josué a refait la même alliance. Mais là, avant de faire ça, il leur a dit, « Vous ne serez pas capables de servir l'Éternel parce que c'est un Dieu saint, un Dieu qui ne tolère aucun rival. » Et là, le peuple répondit, « Non, on va servir l'Éternel, c'est lui qu'on veut servir. » Et en ce jour-là, Josué conclut une alliance avec le peuple et lui donna ses lois. Mais malheureusement, si on lit un peu plus loin dans le livre des Juges, qu'après cette génération fut morte, après que Josué, sa génération, était morte, les enfants d'Israël abandonnèrent l'Éternel et firent ce qui est déplu à l'Éternel. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a que Dieu qui s'est engagé. Le peuple ne s'est pas engagé. Il n'y a que Dieu qui s'est engagé, et c'est Jésus qui a scellé cette alliance par son sang. Et le plus important de ce qu'on vient de voir, c'est que nous réalisions que nous avons un tel sacrificateur qui s'est offert lui-même. Puis en plus, c'est notre avocat. C'est lui qui plaide pour nous devant le Père, puis en même temps, un intermédiaire entre Dieu et nous. Mais dans sa deuxième déclaration, l'auteur nous informe de la raison pour laquelle il y eut un changement d'alliance. Au verset 7, il écrit, « En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de remplacer par une seconde. » Et la raison de ce changement, c'est que la première alliance comportait des lacunes. Elle n'était pas parfaite. Dans l'Ancien Testament, il y a eu, au cours des siècles, plusieurs alliances qui ont été conclues. Comme on a vu tantôt, en Dieu et différentes personnes, comme Noé, Abraham. Il y a eu des alliances où c'était seulement Dieu qui s'engageait. Puis d'autres qui étaient conditionnelles, comme l'alliance dont il est question ici. C'est une alliance conditionnelle. Qui est l'alliance de Moïse, qui est appelée aussi l'ancienne alliance. C'est la même alliance qui a été reprise avec Josué à la sortie d'Égypte. Puis comme l'auteur le dit, si l'ancienne alliance avait été sans défaut, elle aurait rempli son rôle. Mais ici, on pourrait penser que c'est à cause du peuple que pour respecter les ordonnances de l'ancienne alliance, on a raison en partie. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans l'esprit de l'auteur, cette alliance était imparfaite parce qu'elle ne pouvait pas rétablir la relation de l'homme avec Dieu de façon permanente. Elle faisait seulement que couvrir le péché temporairement, jusqu'au prochain sacrifice. Ça prenait tout le temps un sacrifice. Parce que notre nature humaine est là, il y a tout le temps des péchés qui reviennent, Ça prenait tout le temps des sacrifices. C'est pour ça que l'alliance n'était pas parfaite. Puis elle n'était pas parfaite aussi, surtout à cause de l'interprétation que les Juifs en faisaient. C'est pourquoi Dieu leur adresse un blâme, comme il le mentionne au verset 8. Car c'est avec une expression de reproche que le Seigneur dit à Israël. Et là, ce n'est pas à cause que l'alliance était faible en elle-même, c'est-à-dire elle venait de Dieu, mais c'est parce que c'était impossible de l'accomplir puis d'atteindre l'objectif de rendre l'homme pécheur acceptable aux yeux de Dieu. Il n'y avait aucun moyen de rendre l'homme parfait, permanent. Et l'apôtre Paul révèle un peu ce que Dieu, pourquoi Dieu donna la loi pour donner une leçon, à savoir démontrer notre incapacité à l'observer. Il agissait comme un pédagogue pour mettre en lumière combien notre cœur est tortueux, combien notre cœur est pécheur, et tout ça afin de conduire celui qui l'a accompli, de nous conduire, c'est-à-dire à celui qui a accompli la loi, Jésus-Christ. Et au verset 8, il continue, il dit, « Voici des jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Et là, on pourrait dire que l'auteur, il cite Jérémie pour démontrer que la nouvelle alliance, c'est pas de son invention, là. C'est une alliance qui avait été promise, promis par les prophètes de l'Ancien Testament. Et là, il continue, c'est une alliance qui n'est pas comme l'alliance que j'ai traitée avec vos pères, le jour où j'ai saisi par la main pour les faire sortir d'Égypte. Là, on voit bien que c'est l'alliance qu'il avait faite avec David. Là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils l'ont violée, cette alliance, et moi non plus, je ne suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Donc, si l'alliance avait atteint son but de réconcilier l'homme avec Dieu permanent, bien Dieu n'aura pas eu besoin d'établir une nouvelle alliance et d'offrir son Fils. L'auteur nous dit ici dans les versets 10 à 13, quelle utilité elle a cette nouvelle alliance-là? Qu'est-ce qu'elle fait de meilleur cette nouvelle alliance-là? En commençant au verset 10, il dit, « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je ferai leur Dieu et ils seront mon peuple. » On voit bien que cette nouvelle alliance-là comporte un type de loi complètement différent que les lois de l'ancienne alliance. Ce sont des lois qui sont écrites dans le cœur de l'homme. Ce ne sont pas des lois qui sont à l'extérieur de l'homme. C'est l'intérieur qui va faire marcher l'extérieur et non le contraire. Et comme Paul le dit, qu'il n'est plus sur la loi, mais qu'il est sur la loi de Christ. Ça ne veut pas dire qu'il n'accomplit plus aucune loi, qu'il ne fait plus rien de ce qui était dans l'Ancien Testament, mais c'est différemment. Jésus, il a tout répété les nouvelles les lois, puis il rajoute même à cette loi, à ces lois-là. Quand il dit, il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère, bien, il y en a bien qui ont dit, je n'ai jamais commis d'adultère, moi. Quand il a été dit, tu ne commettras pas de meurtre, je connais que je n'en ai jamais commis de meurtre. Mais là, Jésus va un petit peu plus loin. Il dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, si tu regardes ton frère avec la haine, tu as commis un meurtre, tu as commis l'adultère. C'est là que c'est dans le cœur. C'est pas mal plus qu'à l'extérieur. Fait qu'on a beau dire, moi, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait ça, mais oh! Puis, qui a jamais dit, et là, je m'adresse aux hommes, mais ça doit être la même chose pour les femmes. Qui a jamais regardé quelqu'un pour le convoiter? Qui a jamais regardé quelqu'un avec haine? Avec des yeux comme des fusils, on pourrait dire. Et comme le dit le verset 11, personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant « Connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et ça, ça veut dire que c'est une connaissance directe et personnelle de Dieu. Cette nouvelle alliance-là nous apporte quelque chose de complètement nouveau que l'ancienne alliance ne pouvait pas faire. C'est une connaissance qui fait par une relation personnelle, une relation intime avec Dieu, que nous avons accès direct à notre Père. On vit en lui, il vit en nous. On a accès à lui en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Mais cette relation-là, avec Dieu, saint, et un homme, une femme pécheur, est possible qu'à une condition. C'est ce qui est dit au verset 12. « Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leur péché. » Et puisqu'il a instauré cette nouvelle alliance, c'est bien entendu qu'il a déclaré ancienne la première. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Puisque, comme Éphésiens 2,15 le dit, Christ a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux, en un seul corps, par sa croix en faisant mourir par elle l'inimitié. Mais tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, on peut dire, font partie de cette nouvelle alliance. Puisque c'est lui qui l'a accompli à la croix. Il n'y a aucun de nous qui a accompli quelque chose. C'est lui qui a tout accompli, les exigences de Dieu à la loi. Et c'est par la foi que nous, on rentre dans cette nouvelle alliance-là. Et c'est ça un peu que nous nous souvenons à chaque fois qu'on prend le repas du Seigneur. On se souvient de l'alliance, comme Jésus l'a dit, cette alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ça qu'on se souvient. Et la question à se poser ici, c'est Est-ce que je connais vraiment le Seigneur personnellement? Est-ce que j'ai cette relation personnelle avec Dieu? Est-ce que j'ai rentré dans cette alliance-là par la foi? Est-ce que j'ai mis ma confiance dans son sacrifice à la croix? Tu as accompli tout, tu es accompli. On peut dire que la lettre aux Hébreux leur a été écrite aussi pour leur montrer que Dieu leur avait donné ce qu'il y a de meilleur. Mais c'est aussi à nous que Jésus a été donné. C'est aussi à nous que le meilleur a été donné, pas seulement qu'au peuple hébreu. Et comme nous avons vu, le point le plus important de la lettre, c'est que nous avons. Nous qui avons mis notre confiance dans le sacrifice parfait de Jésus-Christ. Nous avons un souverain sacrificateur qui est assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. C'est lui, Jésus, qui par son sang s'est fait garant de cette alliance, de cette nouvelle alliance, et qui a fait en sorte que Dieu a accepté de pardonner nos péchés. Mais je ne sais pas si on réalise vraiment toute l'importance de cette nouvelle alliance. Si on retourne dans le passé, on pourrait dire en imagination, là, puis que Dieu n'a pas changé l'alliance. On reste quand même pécheur. Qu'est-ce que ça nous prend pour rétablir la relation avec Dieu? Même si temporairement, là. Hein? L'alliance, là, c'est pas seulement d'offrir des sacrifices. C'est de tout respecter la loi au complet. Au complet. Puis là, je ne la lirai pas, l'alliance, là, parce que c'est long. C'est plus que les 10 commandements. Il faut respecter les fêtes, les sabbats, les nouvelles lunes, le manger, les sortes de manger, les sortes, tout respecter. Étant donné qu'il n'y a personne qui est capable de faire ça, pour avoir un accès temporaire à Dieu, il va falloir offrir des sacrifices. Ça va nous coûter cher. Au prix de la viande aujourd'hui, là, ça va nous coûter cher. Hein? Imaginez-vous. On ne peut pas rentrer là-dedans, mais comme je dis souvent, lorsque j'étais jeune à l'école, on me disait que le plus saint commettait un minimum de 7 péchés par jour. Ça veut dire 7 sacrifices par jour? 7 agneaux, 7 taureaux, 7... Mais juste pour vous donner une idée, là. En plus de ça, nous, les païens, nous, les non-juifs, on n'avait pas accès à ça. On n'avait pas accès au sanctuaire. On n'avait pas accès à l'alliance. Maintenant, gratuitement, on a accès à sa présence. Pas seulement dans le temps de l'action de grâce, tous les jours, toutes les minutes, même quand on dort. C'est-tu pas quelque chose qu'on devrait sauter de joie, je pense? Ça serait gênant, là, mais moi, des fois, c'est ça que dans mon esprit, là, je peux même pas réaliser que moi, qui au début, quand j'étais jeune, je faisais tout dans mon pouvoir pour renier l'existence de Dieu. Je n'ai jamais cherché Dieu. Lui, il m'a cherché. Je croyais que je cherchais Dieu. Ce n'est pas ça que je cherchais. Je cherchais une réponse à quelque chose. Lui, il a fait en sorte que les circonstances fassent que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, c'est-à-dire que lui m'a trouvé. Mais comment est-ce qu'on réagit à ça? Comment est-ce qu'on répond à son appel? Comment est-ce que... Hein? Puis, je voyais vraiment que dans le temps de cette période d'action de grâce-là, là, c'est le temps de lui démontrer notre reconnaissance. Mais pas seulement là, mais tout au long de l'année. Père du ciel, j'ai vraiment pas de mots pour pour te dire combien je suis reconnaissant. De savoir que mon nom est écrit avant, dans ton livre, avant le commencement du monde, sachant, me connaissant, sachant qui j'ai été. Tu as raison de dire que c'est une grâce, c'est un don gratuit, parce que j'ai rien fait. Et je méritais autant que, je ne sais pas, ceux qui sont présentement en Israël, qui ont des bombardements, que ceux qui sont en Syrie, qui ont des bombardements, qui ont des malheurs. C'est vraiment une grâce que tu nous donnes de t'appartenir. C'est vraiment une grâce que tu nous donnes de cheminer avec toi et de savoir que nous allons passer l'éternité dans ta présence. Que tout ça, ça va être du passé. Il n'y a aucun moyen physique ou spirituel de te rendre ça. La seule chose qu'on peut dire, c'est merci, merci. Et que nos actions puissent démontrer notre connaissance, démontrer notre repentir et marcher avec toi. Amen.